RCN, près de chez vous, votre émission d'actualité. Magali Santulli.
12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens ont fait leur rentrée ce lundi 1er septembre. Il y a quelques jours, Pierre-François Mourier, recteur de l'Académie de Nancy-Metz, présentait les grandes orientations de la rentrée scolaire 2025 dans l'Académie. Dans un contexte de baisse démographique dans la région Grand Est, il est notamment revenu sur les répercussions dans les établissements scolaires.
La baisse démographique n'est pas liée systématiquement à une baisse du nombre d'encadrants. Le professeur. On a jusqu'ici réussi vraiment, en réalité, à augmenter le taux d'encadrement de nos élèves par les enseignants et puis plus largement par l'ensemble du personnel éducatif parce que le ministère nous fait confiance. Et on a parmi les taux d'encadrement des élèves les plus importants du territoire national. Pour nous, c'est important parce que ce sont souvent dans les territoires les plus compliqués que la baisse démographique est la plus forte, et en particulier dans le monde rural. L'observatoire notamment des dynamiques rurales est extrêmement important pour chaque DASEN, chaque directeur des services de l'éducation nationale, pour discuter en amont, pour essayer au maximum d'avoir des accords avec les maires les plus concernés, et pour faire en sorte que les choses soient acceptables par la population. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous trouvions de nouvelles formes scolaires. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est Varennes-sur-Argonne, dans la Meuse, où on a l'école des savoirs, qui est à la fois une école élémentaire et un collège. Même lieu, ça a évité la fermeture du collège à Varennes-sur-Argonne, qui était presque inéluctable, et ça a permis, en plus, de créer quelque chose qui a sa justification en soi. En d'autres termes, on souhaite, enfin c'est mon souhait en tout cas, faire en sorte que la déprise démographique soit pas un fardeau, mais plutôt une occasion de repenser une forme scolaire qui n'a pas été repensée depuis le 19e siècle, en réalité, avec des regroupements d'établissements, avec une vraie continuité, notamment entre l'élémentaire et le secondaire, avec des enseignants qui sont dans la coéducation, des enseignants du primaire qui vont enseigner dans le secondaire en 6e ou en 5e, et vice-versa, des enseignants du secondaire qui ont l'appétence pour travailler déjà avec leurs futurs élèves, d'une certaine manière. Il faut profiter de quelque chose qui est une contrainte pour nous, pour en faire une chance pour nos élèves. Et puis la boussole, c'est vraiment qu'il faut éviter, notamment pour les plus jeunes des élèves, des temps de parcours trop longs pour rejoindre leur classe. Ça, c'est vraiment indispensable parce qu'il en va de l'épanouissement des élèves, de leur qualité de vie à l'école et puis donc de leur épanouissement et de leur réussite.
Selon un sondage Ipsos publié ce 1er septembre, la sécurité des établissements scolaires est en tête des priorités pour les Français qui considèrent qu'il s'agit de la première urgence à l'école devant les classes surchargées et le manque de financement.
Les deux ministres, la ministre d'État et le ministre de l'Intérieur, nous ont fait parvenir un télégramme diplomatique qui organise les conditions de sécurité de la rentrée scolaire avec les fouilles de sacs, comme vous le savez, qui ont déjà commencé, l'inflexibilité face notamment à l'introduction d'armes blanches dans les établissements. Toute introduction d'une arme blanche, un couteau dans un établissement, entraîne automatiquement un conseil de discipline. Ça ne veut pas dire que le conseil de discipline entraîne obligatoirement une exclusion définitive de l'élève, mais ça veut dire qu'il y a une sanction qui est posée. Et ça veut dire aussi que c'est systématiquement signalé au procureur de la République, et donc que la justice rentre en jeu.
Comme annoncé par Elisabeth Borne, le dispositif portable en pause est progressivement généralisé à l'ensemble des collèges publics.
Le téléphone portable est interdit au collège depuis 7 ans, depuis la loi de 2018. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et ce qu'on appelle la pause du portable au collège, c'est juste l'application de la loi. Il faut faire les choses de façon intelligente. D'abord, il faut qu'on convainque les élèves qu'on ne leur interdit pas l'accès au numérique, mais on veut qu'ils aient un accès intelligent au numérique, et notamment au numérique pédagogique, premièrement. Deuxièmement, il faut convaincre les parents. Il faut que les parents nous aident. C'est de la coéducation. Il faut que les parents soient persuadés, eux aussi, que leurs enfants n'ont absolument pas à avoir de portable au collège. Il ne faut pas qu'ils se disent « comment va-t-on les joindre ?» Ils n'ont pas besoin de les joindre, ils nous les ont confiés dans la journée. Et puis, il faut enfin faire confiance aux équipes pédagogiques. Il y a plein de façons de mettre en place sa pause numérique, dont on va discuter avec les directeurs académiques, hein, bien entendu, avec l'ensemble des chefs d'établissement, mais selon des modalités différentes. Ça pourrait être vraiment, on se sépare du portable, on le met dans un casier ou dans une pochette, c'est une solution. Ça pourrait être aussi, on s'engage dans une charte à ne pas utiliser le portable, et à ce moment-là, l'ensemble de la communauté éducative marche du même pas et accepte cette disposition.
Alors que le gouvernement a fait du sujet de la santé mentale la grande cause nationale en 2025, l'école n'échappe pas à cette problématique. L'enjeu, indique le recteur, est de faire de la détection en amont.
Il faut qu'on soit en mesure de détecter au maximum, avant évidemment tout passage à l'acte, que ça soit d'ailleurs contre soi ou contre les autres, des comportements qui sont le signe avant-coureur de quelque chose qui ne va pas du tout. D'où le fait que j'ai créé au sein de l'Académie un pôle psychomédico-social qui est vraiment à la disposition de l'ensemble des chefs d'établissement pour leur permettre de réagir en amont. On a aussi maintenant des formations pour l'ensemble du monde éducatif, l'ensemble des intervenants sur la santé mentale. C'est un problème de société, véritablement. L'école doit prendre toute sa part, mais l'école ne peut pas être seule non plus à prendre sa part. Il faut que, et c'est le cas, que l'ensemble des acteurs soient solidaires d'une certaine manière et travaillent ensemble. Le territoire du Grand Est a été frappé récemment dans l'Académie de Reims par un drame absolu. Hein. Et ce drame absolu, il a été causé aussi manifestement par un problème de santé mentale, en vérité. Et donc le travail sur la santé physique, mais aussi mentale de nos élèves est une obligation ardente pour chacun d'entre nous dans l'éducation nationale.
Le recteur est également revenu sur la question du bien-être des enseignants. En ce début d'année, le 12e baromètre de l'UNSA Éducation révélait un certain mal-être chez les enseignants entre réformes successives, sentiments de non-reconnaissance et perte de sens.
Les conditions d'exercice du métier, c'est ça qui nous anime. La qualité de la vie au travail des enseignants, pas que des enseignants, de l'ensemble des équipes éducatives, c'est pour nous quelque chose de central. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les enseignants se sentent, les enseignants et les chefs d'établissement, se sentent accompagnés, jamais seuls, qu'il y ait toujours une réponse lorsqu'il y a un acte, qui soit une agression verbale, soit hélas une agression physique, en réponse et en soutien à cet enseignant ou à ce chef d'établissement ou à n'importe quelle personne de la communauté éducative. J'accorde évidemment maintenant systématiquement ce qu'on appelle la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des agents publics à toute personne qui se sentirait en danger dans son activité. Encore une fois, le métier d'enseignant est un métier assez solitaire d'une certaine manière parce qu'on est seul dans sa classe, seul adulte dans sa classe. Bon, il y a évidemment les AESH, dont bien souvent, le seul adulte en position d'autorité dans une classe, c'est un métier très exigeant, donc on leur doit un accompagnement sans faille.
Parmi les nouveautés de la rentrée à noter, les classes à horaires aménagés en mathématiques et sciences pour les élèves de 4e et 3e.
Ces classes, dans trois expérimentales, dans trois établissements de mon académie, dans lesquelles on va mettre le paquet sur les mathématiques et les sciences, et encore plus le paquet sur l'accès des jeunes filles aux mathématiques et aux sciences. Tout simplement parce qu'on est un pays qui laisse de côté beaucoup trop la moitié de sa population, c'est-à-dire les femmes, un peu plus de la moitié, à vrai dire, de sa population, pour ce qui est des études scientifiques. Les filles réussissent mieux que les garçons en sciences jusqu'à un certain niveau, et ensuite c'est l'inverse. C'est absolument pas une fatalité, on lutte contre ça, c'est évidemment dans l'intérêt des jeunes filles, mais en fait c'est aussi dans l'intérêt bien compris de la nation. Il faut que tout le monde puisse accéder, puisse avoir envie, puisse lutter contre une forme d'autocensure qui empêche d'accéder à ce type d'études.
Dans l'enseignement supérieur, le recteur souhaite mettre l'accent sur les études de santé pour répondre à un besoin de professionnels.
Notamment dans certains territoires qui sont moins bien dotés que d'autres en services de santé, qu'ils soient d'ailleurs publics ou de ville. Hein. Les deux souvent vont ensemble par ailleurs. Donc j'ai souhaité qu'on expérimente dans 9 lycées de l'académie une option santé au lycée qui permettra, je l'espère, de faire naître des vocations vers des études de santé.
Enfin, l'année 2025 aura été l'occasion de célébrer les 20 ans de la loi handicap. Alors qu'en est-il de l'école inclusive ?
On en est à la maturité de l'école inclusive et on en est aussi à un carrefour de l'école inclusive. Le nombre d'AESH, des assistants et assistantes pour les élèves en situation de handicap, est incommensurable avec ce qu'il était dans l'éducation nationale il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a plus de 4100 AESH dans mon académie. C'est énorme puisqu'on pensait qu'il y a 30 000 enseignants. maintenant 4000 AESH en plus de ces 30 000 enseignants. C'est vraiment une révolution. L'école inclusive n'est pas qu'une question de moyens, elle est aussi une question d'organisation et elle est aussi une question de bonne entente entre ministères. Là encore, l'éducation nationale ne peut pas tout. On a besoin des ministères de la santé et sociaux. Et c'est pour ça qu'on entre cette année dans l'académie, dans la préfiguration de ce qu'on appelle les pôles d'appui à la scolarité. Toute la Meuse va passer, si j'ose dire, en pôle d'appui à la scolarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des équipes mixtes, éducation nationale, médico-sociale, qui travaillent ensemble, en lien évidemment avec les MDPH, bien entendu, et qui travaillent ensemble pour apporter une réponse la plus rapide possible aux familles, de façon que les familles n'aient pas à attendre, pas forcément pour une aide humaine d'ailleurs, ça pourrait être pour une aide matérielle, pour un aménagement, etc., etc., de façon qu'on soit beaucoup plus réactif qu'on ne l'a été jusqu'ici. Je crois vraiment que l'avenir est dans cette collaboration entre ces deux mondes qui, sur le terrain, se connaissent bien, mais qui institutionnellement sont un peu trop ignorés ces dernières années.
Parmi les autres actualités de la rentrée, on note la réouverture de la plateforme Pass Culture pour les établissements scolaires. Concernant l'épreuve du brevet, la part de contrôle continu évolue. Tous les élèves de première générale et technologique passeront une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques au mois de juin 2026. À noter enfin qu'à partir de la rentrée 2026, une licence professorat des écoles sera proposée sur tout le territoire.
Retrouvez cette émission en podcast sur www.rcn-radio.org.